Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Chers auditeurs de Canal Academy, bonjour et bienvenue dans l'émission Au fil des pages.
On retrouve François-Pierre Misery.
Pour faire connaissance aujourd'hui avec une toute nouvelle revue, Cause commune, publiée par les éditions du Cerf, que j'hésite d'ailleurs un peu à qualifier de littéraire, tant le contenu de cette revue, le message qu'elle entend transmettre, relève peut-être davantage du savoir philosophique que de l'exercice littéraire proprement dit. Et pour parler de cette magnifique revue, je dis bien magnifique, impressionnante par sa densité et son ambition, j'ai le grand plaisir de recevoir dans nos studios aujourd'hui son directeur de rédaction, Pierre Dupuis. Pierre Dupuis, bonjour.
Bonjour à vos éditeurs.
Pierre Dupuis, vous êtes donc directeur de la rédaction de Cause commune, par conviction profonde, porté par le projet lui-même, plus que par ambition personnelle, dites-vous.
Oui.
Vous êtes philosophe, vous êtes agrégé de philosophie, une discipline dans laquelle que vous avez approfondie tout au long de vos études, notamment à l'Université Montaigne de Bordeaux, à la Sorbonne.
Voilà.
Vous êtes spécialiste de la philosophie critique de Kant, lequel est très présent dans le premier numéro de votre revue, et dans une moindre mesure, dites-vous, de philosophie politique contemporaine. D'ailleurs, j'ai noté que vous avez commencé vos études à Sciences Po Bordeaux.
Voilà, vous avez commencé, oui, effectivement, voilà. À l'IEP de Bordeaux.
Vous aimez en outre la haute et moyenne montagne pyrénéenne et la poésie, ce qui d'ailleurs n'est pas du tout incompatible. Et du reste, si je peux me permettre, la montagne et la poésie ne sont pas absentes de votre écriture philosophique. Celles des articles que vous publiez dans votre revue, tant on y sent souvent un lyrisme dans l'expression qui respire l'air de la montagne.
Bon, je vous remercie.
Alors, Cause commune, qu'est-ce que c'est? Il me semble que c'est d'abord une maison du savoir, une maison de la pensée philosophique, mais pas seulement de la pensée philosophique. C'est surtout, en tout cas, une maison ouverte, une maison commune qui invite à la réflexion, mais qui surtout veut susciter le désir de réflexion, le désir de connaissance. C'est donc avant tout un formidable outil de transmission de la connaissance qui réunit professeurs de lycée, universitaires, étudiants, élèves. Et en ce sens, je ne peux que souligner la parenté de cette démarche avec celle de Canal Academy, la radio des Académies de France, qui se veut, elle aussi, un outil de transmission du savoir. Alors ma première question, Pierre Dupuis, va de soi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots quel a été l'élan fondateur de Cause commune? Décrivez-nous son objectif, sa structure, ses différentes rubriques éventuellement. Et puis, surtout peut-être, la façon dont vous réglez l'épineuse question du langage de la transmission. Comment faire pour être à la fois savant et accessible?
Quand on se penche rétroactivement sur la naissance, l'origine d'un tel projet, on n'est pas toujours assuré de ne pas reconstruire a posteriori un mythe ou un roman des origines. Ce que je peux dire, c'est que le projet a un an et demi de maturation et il est né de plusieurs constats au départ. Probablement parce qu'avec quelques collègues assistant à divers colloques, voyant que ces colloques fort intéressants, réunissant peu d'universitaires souvent, étaient publiés, il y avait des actes. Et je me suis toujours dit, mais il faudrait une plus large diffusion de ces choses-là. Constatant également un espèce de clivage entre les professeurs de lycée et les universitaires. Et dans le monde de la publication, à côté des grandes revues universitaires et ce que lisent les lycéens, il me semblait y avoir un vide. Pour toutes ces raisons, j'ai voulu mettre un petit peu plus l'école au travail, à contribution, et créer un pont en quelque sorte entre professeurs de lycée et universitaires pour une revue en effet exigeante, destinée donc aux 16-25 ans, plus largement au grand public, dont le projet était donc de réfléchir à l'actualité. C'est-à-dire au fond de montrer que le souci du monde qui caractérise les citoyens que nous sommes d'abord, et tous les élèves sont d'abord fondamentalement en vocation à devenir des citoyens, passer par la lecture des grandes œuvres qui nous permettent de lire les journaux. Voilà, donc montrer que pour penser le monde aujourd'hui, il est sans doute nécessaire d'avoir lu un tant soit peu Platon, Aristote, même les anciens, et puis sans doute beaucoup plus les contemporains. Voilà. Mettre la philosophie au travail et dans la perspective de l'actualité, les lettres plus largement, c'était le projet de départ. Je ne sais pas si je l'ai à peu près décrit.
Très bien. Alors maintenant, peut-être pouvons-nous, Pierre Dubuis, passer à la substance. Un peu. La substance, non pas que vous n'ayez pas parlé de substance avant, mais disons que maintenant, peut-être nous allons pencher sur ce premier numéro que vous avez publié, qui est essentiellement consacré à l'Europe. L'Europe réfléchie.
C'est le gros dossier, oui.
L'Europe réfléchie. Alors là, je dois dire que ce mot « Europe réfléchie » m'a fait du bien, parce que ce n'est pas souvent qu'on entend ça, et je dois dire que c'est pour moi tout un programme, un beau programme. Et dans ce numéro consacré, donc, pour une bonne part, à cette Europe réfléchie, vous avez lancé un débat absolument passionnant, sur lequel je voudrais qu'on s'arrête un peu. Vous êtes parti du vieil antagonisme entre les Lumières et le romantisme, entre le patriotisme constitutionnel et les communautarismes, et vous l'avez en quelque sorte transposé au niveau du projet européen actuel. Mmh. Alors, ce faisant, et j'en viens donc à ma deuxième question, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trouvé la bonne réponse européenne à ce débat ? Notamment, pas uniquement, mais notamment sur le plan institutionnel et juridique. Entre un fédéralisme protecteur des identités, régulateur des tensions culturelles, et un modèle que je n'ose pas qualifier de confédéral, mais un modèle plutôt intergouvernemental, en quelque sorte, l'opposé, qui laisse aux États-nations l'essentiel des pouvoirs, à partir de ce choix, quel est, à partir de votre analyse, inspirée de Kant, quelle est votre réponse ?
Voilà, écoutez, alors, je ne sais pas si j'ai vraiment une réponse à cette question. Ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, dans la revue, c'est de montrer que, au fond, nous héritons du débat entre, effectivement, les Lumières et le romantisme, au fond, la grammaire, la syntaxe de nos propres débats aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le communautarisme ? En effet, c'est un néo-romantisme. Qu'est-ce que c'est que le patriotisme constitutionnel défendu par Habermas, par exemple ? C'est l'héritage au fond des Lumières. Donc, il me semblait que nous réfléchissons encore avec cet héritage-là. Et donc, je n'ai pas vraiment de réponse à votre question. Simplement, j'ai essayé de montrer que les catégories politiques que nous utilisons, même si elles n'ont pas le même nom aujourd'hui, héritent directement d'un débat qui n'est pas réglé, qui a opposé effectivement le camp de l'universel, des Lumières, au camp qui a été à l'origine le camp plutôt de la réaction, le néo-romantisme, qui alimente aujourd'hui la position dite communautarienne. Et je crois qu'on ne pourra pas formuler de réponse à votre question si on ne prend pas en compte aujourd'hui le fait que les Lumières, qui portent en elles l'exigence universelle, par exemple, des droits de l'homme, ou l'humanisme si vous préférez, doit désormais, je crois, se décliner autrement et être attentif aux particularismes, aux différences, aux communautés. Alors, sur quel mode de réglage, sur quel type de prise en compte ? Je ne veux pas répondre à cette question, parce que je n'ai pas vraiment réponse. C'est des questions que je me pose encore. Je pense qu'il y a eu un rejet, il y a un peu plus d'un an, lors du référendum, du projet de constitution européenne, sur une base de type de refus assez hétéroclite d'ailleurs. Mais il y avait probablement la peur d'une partie de la nation française, que le Moloch européen dévore les nations. Alors j'ai essayé de montrer à partir de Kant en particulier que l'Europe a été pensée bien en amont à partir de la tradition du criticisme et ensuite s'est construit sur un mode où effectivement les différentes communautés, les nations, les traditions dialoguent entre elles. Et c'est jamais construit dans la perspective d'un État qui fédérait absolument ces nations. Voilà ce que je peux essayer de vous répondre.
Mais ce dialogue, justement, ce dialogue entre les nations, entre les cultures, entre les identités, est-ce que c'est un dialogue qui peut fonctionner simplement sur base d'un système d'État qui reste en concurrence les uns avec les autres, si j'ose m'exprimer ainsi, avec une notion de concurrence qui n'est pas uniquement commerciale ? Est-ce que le fédéralisme lui-même, comme je vous le suggérais un petit peu tout à l'heure, tout doucement, n'est-il pas la réponse quand même, puisque c'est ce qui sert à ordonner, à équilibrer ces identités ?
Alors, si vous appelez fédéralisme un modèle qui permet effectivement aux nations de garder une part de souveraineté et en même temps d'en transférer une autre, la question est de savoir lesquelles. Mais il est clair que le transfert de souveraineté peut s'accomplir sur le mode du contrat social. Il faut l'accord effectivement de ces nations entre elles.
Et là, on va vraiment en venir au fond. On ne parle plus d'institutions, on ne parle plus de machines, en quelque sorte. On parle de l'esprit, du fond. Par-delà, donc, les antagonismes qui caractérisent l'Europe, ou s'appuyant sur ces antagonismes, et je dirais même sur le polémos d'Héraclite que vous citez, j'aime que vous citiez ce philosophe grec.
Cité par Patochka, oui, en effet.
Venons-en donc à ce qui constitue l'âme de cette Europe par-delà ces antagonismes. Et là, on tombe dans un thème central de votre premier numéro. Est-ce que l'Europe est simplement un lieu géographique enfermé dans des frontières? Ou est-ce que l'Europe est plutôt un esprit, l'humanité européenne de Husserl, par exemple, l'esprit de résistance de Patochka, un esprit dont la portée est universelle et dont même éventuellement l'origine géographique peut être extérieure à ses frontières? Je fais une allusion là à ce qu'on appelle l'Europe dite chrétienne parfois. Et l'Europe dite chrétienne, elle est née au-delà de la Méditerranée, et on oublie ça souvent. Et puis d'ailleurs, entre parenthèses, la Méditerranée n'est-elle pas au fond elle-même l'esprit fondateur de l'Europe, bien plus qu'un lieu géographique? Et alors, à partir de là, est-ce que cela fait de l'Europe un modèle pour le monde? Un modèle fondé sur des valeurs universelles? Et là, il faut faire attention à l'eurocentrisme. Ou est-ce qu'au contraire, l'Europe est une construction de l'esprit qui s'inspire et se ressource à partir de l'extérieur, notamment à partir de l'Asie et de l'Afrique?
Ce que j'ai voulu montrer dans ce petit article, en publiant donc d'abord le vieil article de 1935 de Husserl sur la crise de l'humanité européenne, et ensuite à travers l'héritage de Patochka, faisiez référence au polémos d'Héraclite, un thème que reprend Patochka, c'est qu'on ne peut pas simplement... Vous voyez, là encore, on est enfermé, si j'essaie de dégager l'antinomie, au fond, les deux polarités de nos débats actuels, entre une carte universaliste, effectivement, est-ce que l'Europe, c'est simplement la patrie de l'universel? Est-ce qu'elle a vocation à devenir le monde? Est-ce que nous reprenons, sans le discuter, sans le modifier, le modèle des Lumières? Ou bien est-ce que l'Europe a une identité hérité du passé, auquel cas on joue encore la carte au fond du romantisme, c'est-à-dire au fond de ce qui a été historiquement la réaction qui a alimenté les nationalismes. Alors il me semblait que Husserl propose une troisième réponse qui est en ceci intéressante, qui définit l'âme de l'Europe, non pas comme une identité close sur elle-même bien sûr, une identité, pas non plus seulement comme un modèle universel, et il parle de telos, l'Europe a une finalité. Et cette finalité est donnée dès le départ en germe dans le Logos. Donc au fond, l'Europe, c'est la Grèce, comme continent sans doute peut-être de l'universel, mais qui a ceci de particulier. Vous savez, la grande thèse de Husserl, c'est que ce monde du Logos, c'est ensuite, avec la révolution galiléenne, s'est orienté vers l'analyse positive des faits, vers la science, qui a donné à la fois le monde de la consommation et de la technique. Et que Logos, c'est pas simplement ça, évidemment. C'est le souci socratique, c'est l'interrogation de soi, c'est le dialogue avec l'autre, c'est effectivement l'ouverture. C'est au fond, le mode de construction de l'Europe, ça a été ça. Hein, voilà. Alors, est-ce que l'Europe, ça peut être demain la Turquie? Je crois que oui. Est-ce que ça peut être la Chine? Sans doute pas, pas tout de suite en tout cas, mais c'est peut-être un mode de nouage juridique, original.
On a des choses à apprendre, voilà. De la Chine.
Sans doute, bien sûr.
De l'Afrique.
Bien sûr, de l'Afrique aussi. Il y avait un très courageux article de Dominique Strauss-Kahn d'ailleurs, dans, je crois que c'était la revue de mes amis du meilleur des mondes, qui parlait d'une Europe du Sahel au Sahara. On sent la France repliée sur elle-même depuis ce fameux référendum, un repli nationaliste. Et au fond, j'ai l'impression que l'idéal européen a été perdu de vue.
Hein. On va
C'est un peu dilué, peut-être. Dans...
On va le faire renaître, voilà. Et votre revue va y contribuer, ça je n'en doute absolument pas. Pierre Dupuis, si vous voulez bien, nous allons faire une petite pause pour nos auditeurs et nous allons reprendre cette conversation dans quelques instants.
Nicolas Poussin et Orphée, la collection privée de Goethe, la gravure de Louis-René Berge, les méditations sur la beauté de François Cheng, les tableaux de Bernard Buffet et de Velikovitch, les œuvres de Pierre-Yves Trémoy, mais aussi le monstrueux dans l'art, ou Bosch et les tentations de Saint-Antoine, Canal Académie vous propose une série d'émissions sur l'art et de réflexions sur la beauté.
Bien, Père Dupri, nous reprenons notre conversation sur votre revue Cause commune. Et je voudrais en venir maintenant à une question qui peut-être est un peu plus spécifique, mais qui me paraît importante dans le contexte actuel de l'Europe, puisque nous parlons essentiellement de l'Europe aujourd'hui. Et cette question est celle du rôle de la littérature, de la lecture et de la culture en général, disons, comme ferment d'une possible identité européenne. Je dis possible parce que l'identité européenne, mon Dieu, il y a beaucoup à en dire au singulier, si on prend le mot identité au singulier. Mais pour que les arts et la littérature puissent pleinement jouer ce rôle, que vous évoquez également dans votre revue, est-ce qu'il ne faut pas repenser, et je dirais même imaginer, une politique culturelle au niveau européen, une politique du livre notamment, qui protège la création des dérives, je dis bien des dérives, d'une société marchande qui pollue les esprits et qui même peut polluer l'esprit des acteurs de la culture? Comment est-ce qu'on peut concilier cela? Et là, je m'avance un petit peu, mais je voudrais avoir une réponse de votre part, c'est un peu en liaison avec ce que vous avez dit auparavant. Comment est-ce qu'on peut concilier ça avec un système institutionnel qui continue de laisser la culture dans le domaine de la compétence des États? Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction là-dedans? Je vous en prie, Pierre.
Oui, oui. Je crois que quand on se balade, qu'on regarde un petit peu ce qu'on trouve à la devanture des kiosques, quantité de choses très multicolores, diverses, etc., la culture, en effet, me semble en péril. Or, si le monde de la consommation prend le pas, en effet, sur ce qu'on peut appeler la vie examinée ou la vie réfléchie, donc oui, la culture est une exception, elle est même ce qui, en l'homme, fait exception et l'arrache à la nature, au cycle de la vie, du bios, et c'est-à-dire l'arrache à la violence, à la barbarie. Voilà. Donc comment préserver ça? Effectivement, je crois qu'il n'y a pas de politique culturelle sans un fort volontarisme national et sans doute européen. Alors, quelle politique du livre au niveau européen? Sans doute faudrait-il commencer, au moins dans les programmes scolaires de chacun des États, par faire que soit un petit peu plus étudiée en France la littérature anglo-saxonne, allemande, y compris dans les cours de français. C'est une chose qu'on voit rarement.
C'est vrai.
Et je sais que mes collègues de langue vivante étudient plus souvent la littérature de communication, les journaux, plutôt que les grands auteurs. Donc je crois que c'est l'esprit de l'étude, de la réflexion, qui est pour moi lié à l'exigence de citoyenneté et à l'esprit même de la philosophie, tombe effectivement malheureusement un peu en désuétude sous l'effet quasiment mécanique de cette invasion marchande, du tout venant de ce que, effectivement, je vous parlais des kiosques multicolores. Voilà, comment faire? Oui, il faudrait sans doute une politique de la culture plus forte en Europe, plus décidée.
Et la clé, c'est la lecture.
Probablement, oui, bien sûr. Et la diffusion du livre. Oui, oui, jamais autant nous n'avons disposé de livres. Hein, et on se demande aujourd'hui qui les lit et qui les ouvre,
oui.
Si ce n'est pas sur la commande du professeur.
La culture a beau être une exception, les exceptions doivent être protégées. Pour rester les exceptions, pour que ça ne soit pas simplement un mot.
Ouais, celle-là, oui, c'est pas par un effet effectivement mécanique de la vie se développant elle-même qu'on est amené à lire. C'est par un arrachement salutaire qui vient d'une décision.
On va sortir maintenant un petit peu de ce premier numéro pour aller vers l'ensemble des thèmes que vous entendez aborder dans vos numéros successifs de Cause commune. Et je sais que votre... le numéro qui est en cours d'élaboration est un numéro concernant Tocqueville. Tocqueville et le concept même de démocratie. Vous avez également un numéro sur la mémoire, la Shoah.
Oui, sur les différents discours autour de la Shoah. Ouais.
Exactement. Ouais. Est-ce que vous pouvez donc un petit peu élaborer d'abord sur Tocqueville, ensuite sur la mémoire et puis éventuellement sur d'autres thèmes que vous comptez également aborder dans votre magnifique, je répète, magnifique revue.
Oui, je peux vous parler de Tocqueville. Sur la démocratie pour Tocqueville est un concept plurivoque. Ce n'est pas seulement l'ensemble de nos institutions, ce n'est pas seulement l'état de droit. La démocratie, c'est, dit-il, un régime. Et même un régime anthropologique qui est commandé par la saisie de l'autre comme un semblable. C'est-à-dire par une dynamique qui le traverse et qu'il dit être irrésistible et qui est l'égalisation des conditions. Logique, dynamique, qui érode du coup toute espèce de tradition, d'héritage, et dont un des principaux dangers pointés par Tocqueville est effectivement ce nivellement des esprits. Alors autant Tocqueville est attaché aux valeurs de la démocratie, l'égalité des conditions, il est résolument un démocrate, autant il permet, je crois, et c'est pour ça qu'on le redécouvre depuis une trentaine d'années, plus tardivement que d'autres d'ailleurs en France, celui qui permet de réfléchir la démocratie, de proposer une critique interne de la démocratie, bref, une critique démocratique de la démocratie, une critique attentive aux dérives possibles de ce modèle de l'intérieur, voilà, entre autres. Donc nous voyons bien que, un à un, tous les secteurs de la société sont touchés par cette dynamique de l'égalisation des conditions. Et pour vous donner un exemple, entre autres, le monde scolaire, le monde de la transmission, sans lequel, s'il n'y a pas de hiérarchie, par exemple, entre les œuvres et les élèves, il n'y a pas de transmission possible. C'est donc fondamentalement un monde, je dirais, aristocratique, où quelque chose vaut plus que la parole de l'élève, où l'œuvre vaut plus que la parole de l'élève, et ce monde est évidemment contaminé par l'égalisation qui est la dynamique de ces régimes. Et donc ça signifie que le monde de la culture est mis en péril, en quelque sorte, par cet égalitarisme niveleur, qui est pourtant, en même temps, la valeur à laquelle aucun d'entre nous, je pense, ne veut renoncer. Voilà, donc Tocqueville est un des premiers à penser les contradictions internes de ce qu'il appelle la démocratie comme, pas seulement régime politique, mais régime anthropologique. Voilà, cette religion du semblable, qui est désormais la nôtre, qui est probablement issue du christianisme d'ailleurs.
Vous
largement.
Avez parlé de religion.
Oui.
Religion
oui.
du semblable.
Oui.
Dans certains pays, même actuellement, en Chine par exemple, oui. il y a des gens, des philosophes, oui. qui pensent que nous, Européens, en matière de droits de l'homme, nous sommes des adeptes d'une sorte de religion.
C'est pas faux.
Le droit Bien absolu.
Ouais.
Et les Chinois ont tendance, un professeur de philosophie chinoise en particulier, dit que le droit est indissociable du devoir.
Oui, bien
sûr. Et donc, il y a une sorte de jeu de crédit-débit.
Oui, tout à fait. Voilà, la pente, si vous voulez, naturelle de la démocratie, explique Tocqueville, c'est effectivement, nous devenons de plus en plus des ayants droit, simplement oubliant nos devoirs. C'est aussi une perte du sens commun, une perte du sens civique, etc. etc. Pour autant, est-ce que devant ce constat de ce qui mine nos régimes démocratiques, la démocratie, au fond, est minée par elle-même, hein, elle est son propre danger. Devant ce constat, la question, c'est de savoir si la démocratie trouvera en elle-même suffisamment de ressources pour contrer, pour limiter ces dangers internes. Pour ma part, je le crois. Cette croyance signifie être démocrate malgré tout. Mais effectivement, des questions angoissantes, vertigineuses même, demeurent devant ce monde démocratique.
Alors la mémoire. Deux mots sur la mémoire. C'est difficile de dire deux mots sur la mémoire, mais quand même.
La mémoire. Alors si la modernité peut se définir, c'est un point d'ailleurs sur lequel Hegel et Heidegger, par exemple, que tout oppose ou presque, sont presque d'accord. Si on peut définir la modernité comme le règne de la subjectivité, comme la valeur de l'autonomie, comme la capacité au présent de construire nos propres normes, nos valeurs, alors du coup, la mémoire est une dimension de l'humain qui s'érode, qui se perd. L'humanité démocratique, en quelque sorte, structurellement, parce que sa structure est cartésienne, constructiviste, a tendance en effet à perdre la mémoire. Les sociétés anciennes sont construites sur la mémoire, sur la transmission, sur l'héritage, mais c'est en même temps le passé et les traditions qui gouvernent. Voilà, donc moi je commencerai par ça. Nous perdons la mémoire, c'est le tribut à payer de la modernité elle-même. La question est de savoir comment ne pas la perdre totalement, comment la cultiver malgré tout.
C'est la bureaucratie, les papiers qui nous font la mémoire.
Ça peut être ça aussi. Non, mais je pensais essentiellement au vous voyez, le phénomène de la mode. La mode est moderne par essence, c'est-à-dire qu'elle recompose à un rythme de plus en plus accéléré, élevé, toute chose au présent. C'est une espèce de sacralisation du présent au détriment du passé.
Pierre Dupuis, merci. Merci pour ce moment qui était beaucoup trop court. Je dois dire beaucoup trop court, vraiment. Mais très intense de réflexion. Et c'est un moment qui nous a permis, et qui a permis à nos auditeurs, je l'espère, de remplir, ou plutôt de susciter le désir de remplir un peu notre petite case du savoir. Ce que Montaigne appelle, si je me souviens bien, la toute petite parcelle de l'ignorance.
Merci.